Le journal Loïc Barrière. 22 millions d'Afghans ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, alerte l'ONU qui réclame aux contributeurs la somme de 5 milliards de dollars. En Algérie, un dirigeant d'opposition condamné à 2 ans de prison pour atteinte à l'intérêt national. Le roi Mohamed VI annonce que 637 personnes seront graciées à l'occasion de l'anniversaire du manifeste de l'indépendance du Maroc. Football, l'Algérie et la Sierra Leone se sont séparés sur un match nul lors de la CAN qui se déroule au Cameroun. Enfin, le Forum des images accueille le cycle de cinéma africain Tigritude à partir du 12 janvier. Entretien avec l'une des programmatrices, Valérie Ozouf. L'ONU demande un montant record de 5 milliards de dollars aux pays contributeurs pour financer l'aide à l'Afghanistan. Cette année, le pays est menacé par une catastrophe humanitaire, alerte Martin Griffiths, le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires. 22 millions de personnes au total, soit plus de la moitié de la population afghane, ont besoin d'une aide d'urgence. En Algérie, Fethi Gharès, le porte-parole du MDS, un parti d'opposition, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Le MDS est une formation de gauche laïque agréée par l'État. Arrêté le 30 juin, il était notamment poursuivi pour atteinte à l'intérêt national, atteinte à la personne du président de la République et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'ordre public. Des accusations qui reposent sur des publications de Fethi Gharès sur Facebook et des échanges privé extrait de son téléphone. Toujours en Algérie, le décès de l'ancien joueur de l'équipe nationale du FLN, Abdelkrim Kheroum. Le président Tebboune lui a rendu hommage. L'ancien joueur avait 86 ans. Je vous propose d'écouter Stanislas Franquiel, historien du sport et auteur du livre « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage » chez Artois Press Université.
Abdelkrim Kheroum est un ancien footballeur professionnel. Il a exercé en France à la fin des années 1950, à un moment où il y avait alors une quarantaine d'anciens joueurs qui jouaient chaque saison dans le championnat de France, que ce soit en première ou en seconde division. Donc avant tout, Abdelkrim Kheroum est quelqu'un de simple, qui n'a jamais cherché la gloire ni les honneurs. C'est un milieu de terrain qui est né en 1936 à Saïda. Il grandit dans un milieu assez pauvre. Son père était garçon de café. Et puis, il va démarrer dans le club, non pas européen, mais le club qu'on appelle musulman de la ville, au Mouloudia Club de Saïda. Il n'y a pas encore de catégorie junior, donc il démarre un petit peu sur le tard vers ses 14 ans. Et en fait, très vite, il va progresser. Et puis, il va démarrer une carrière professionnelle, mais ça va pas se passer aussi rapidement que je viens de vous le dire.
Et puis, il finit par rejoindre, alors qu'il est joueur en France, l'équipe du FLN.
Oui, tout à fait. Donc, concernant Abdelkrim Kheroum, qui vient d'un milieu, donc je l'ai dit, pauvre, traditionnel, qui me disait qu'il avait grandi dans un taudis. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est que avant de parler même de l'équipe du FLN, dès 1956, au moment où le championnat d'Algérie est complètement ralenti, il va d'abord tenter sa chance en métropole. Et en fait, sans contact, sans réseau, il se part à l'aventure. Ils vont revenir avec ses amis, ils vont revenir au bout d'un mois à Saïda, parce qu'ils n'avaient pas de logement et qu'ils étaient employés dans une usine à Orléans, l'usine Arago. Ils pensaient être à la fois joueurs ils voulaient tenter de travailler dans un club corpo. Et en fait, ça se passe très mal à l'usine Arago. Donc il revient à Saïda et là, il va y avoir son service militaire, il va être incorporé de force. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va devoir partir faire son service militaire à Albi. Et là, il va rencontrer un lieutenant-colonel qui connaît le président du club local à Albi. Et c'est comme ça qu'en fait, comme d'autres anciens joueurs algériens, il va finalement, après avoir fait ses classes, il va pas faire vraiment son service militaire. Et il me le dit, moi, mes 28 mois, je les ai fait dans le civil. Oui, en gros, il va être joueur pour la ville d'Albi. Et très vite, il va être recruté à 7 en 1959. Donc là, club de seconde division, l'année suivante au club de 3 en 1960. Et là, en novembre 1960, il fait partie de l'équipe du FLN. Il part la quatrième et dernière vague de départ. Et il rejoint l'équipe du FLN.
Qu'est-ce que vous retenez de la personnalité de cet ancien joueur, puisque vous l'avez rencontré en Algérie?
Oui, je l'ai rencontré et j'ai eu la chance de rencontrer la quasi-intégralité des survivants de l'équipe du FLN. Ce que je retiens, c'est son expérience majeure avec quand même avec cette équipe du FLN. C'est une expérience très forte, formatrice. Ce que je retiens, c'est son humilité. Ce que je retiens, c'est qu'il a toujours été au service du football, puisque après sa carrière de joueur, il a été entraîneur-joueur dans quelques clubs, donc dans l'Oranie. Et ensuite, il s'est mis au service de l'armée, puisqu'il a été un des cadres, un des entraîneurs en fait de l'équipe militaire, équipe régionale et aussi équipe nationale militaire en tant qu'adjoint. Et c'est quelqu'un qui était marié avec une Française, comme beaucoup d'anciens joueurs de l'équipe du FLN, la moitié, et qui, comme d'autres, me le disaient, nous, notre combat en fait n'était pas contre la France, mais contre un système colonial. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité une seconde quand il est parti rejoindre cette équipe du FLN en 1960, une expérience très forte qu'il a marquée pendant 2 années.
Et c'est la raison pour laquelle le président Tebboune lui a rendu hommage en parlant d'un Moudjahid.
Tout à fait, tout à fait. Donc on sait que même si tous ces joueurs n'ont pas pris les armes, mais c'est ce qu'on pourrait appeler des maquisards du football, ils ont... par leur expérience, par leur engagement, ils ont contribué au rayonnement, en tout cas à la médiatisation de ce combat de l'Algérie qu'elle menait contre ce système colonial. Et on sait très bien que la guerre d'Algérie s'est aussi gagnée sur un plan diplomatique. Et donc ils ont contribué à faire connaître cette cause, notamment en allant jouer dans le monde entier. Alors c'est un petit peu moins le cas de Kerroum, puisque il arrive sur le tard, je vous l'ai dit, en novembre 1960. Mais il a quand même participé à une quinzaine de matchs quand ses amis et équipiers avaient eux été jusqu'en Chine, jusqu'au Vietnam, en Yougoslavie, en Hongrie, etc., dans 14 pays plutôt socialistes. Mais en tout cas, ça a été une expérience majeure, très forte, et aujourd'hui, il ne reste sur la trentaine de joueurs de l'équipe du FLN, il ne reste que 5 survivants.
Stanislas Franquiel, historien du sport et auteur du livre Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage, chez Artois Presse Université. Et puis en Tunisie, le décès du poète et homme de lettres Noureddine Samoud, à l'âge de 90 ans. Il est décédé à Kelibia, au Cap Bon, la ville où il est né en 1932. Le ministère tunisien des Affaires culturelles a regretté la perte d'une icône de la littérature en Tunisie. Au Maroc, 637 personnes graciées par le roi Mohamed VI, une mesure de clémence prise à l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. Le 11 janvier 1944, 66 Marocains signaient un manifeste public revendiquant l'arrêt de la colonisation et l'indépendance du Maroc, un texte qui fut présenté par les nationalistes marocains de toute tendance au sultan Mohamed V. Le Maroc, où se déroule le procès en appel du journaliste Souleyman Raissouni, condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle. Lors de la première audience lundi, il a clamé son innocence, assurant être poursuivi à cause de ses opinions. En France, Jean Castex allège une nouvelle fois le protocole sanitaire à l'école. Après les critiques des principaux syndicats d'enseignants et de parents d'élèves, fini les tests PCR ou antigéniques pour les cas contacts. Désormais, 3 autotests suffiront. Le Premier ministre a également annoncé que lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, on ne demandera pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant. On attendra la fin de la journée, un nouveau protocole sanitaire qui entre en vigueur vendredi. Football avec le premier match de la CAN joué par l'Algérie et une déception, les tenants du titre ont fait match nul lors de leur rencontre avec la Sierra Leone. Le sélectionneur des Fenech, Jamel Belmadi, a reconnu qu'il y a un sentiment de regret. Le prochain match pour l'Algérie aura lieu contre la Guinée équatoriale. Le Forum des images à Paris accueille le cinéma africain à partir du 12 janvier. De l'Afrique du Sud au Maroc, du Soudan à l'Algérie en passant par l'Érythrée, la Namibie et la Tunisie, toute l'Afrique est représentée, y compris sa diaspora. Je vous propose d'écouter l'une des programmatrices de cet événement baptisé Tigritude, Valérie Ozouf.
pour programmer Tigritude, Diana Gaye et moi-même, parce que nous sommes deux programmatrices, toutes les deux cinéastes. Diana Gaye réalise des fictions et moi des documentaires. Donc c'est vraiment un regard sensible de cinéaste et non pas un regard universitaire sur ce matériau cinématographique. Nous avons visionné environ 1200 films de tout le continent africain et nous avons absolument tenu à inclure le Maghreb dans l'Afrique parce que nous déplorons de nombreux programmes de films, des programmes universitaires qui ont tendance à couper l'Afrique un peu comme la conférence de Berlin l'a fait à la fin du 19e siècle. Et pour nous, l'Afrique, elle va vraiment d'Alger à Cape Town, de Djibouti à Dakar, c'est tout le continent africain. Et d'ailleurs, comment est-ce que dans cette division symbolique du Sub-Sahara et du Nord-Sahara, on placerait des pays comme le Soudan ou la Mauritanie, où il y a cette espèce de frontière de couleurs qui est pour nous une vision tout à fait coloniale. Nous, on a tenu à regarder des films de tout le continent, et y compris des films de la diaspora africaine également. Donc pas du cinéma de l'immigration, mais du cinéma afro-descendant, que ce soit à Haïti, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil. Et donc, dans ces filmographies, il y a des pays phares, comme l'Égypte, bien entendu, qui à elle seule a produit la moitié de la cinématographie du continent. Il y a l'Algérie qui est un pays vraiment très puissant en termes d'invention des formes de création esthétique et politique, la Tunisie et le Maroc. Et donc nous avons sélectionné quelques films de ces pays-là. Par exemple, je pense au très beau film de Mostafa Derkaoui du Maroc, de quelques événements sans signification, que nous avons également présenté au FESPACO lors de la dernière édition à Ouagadougou, le FESPACO étant le plus gros festival de cinéma panafricain avec Carthage en Tunisie et Durban en Afrique du Sud. Nous avons Aziza comme film tunisien, nous avons un film de Hassan Ferrani, de Brahim Tsaki comme film algérien. Nous avons de nombreux films et également des intervenants spécialisés. Saad Chakali donnera une leçon de cinéma autour du cinéma algérien. Nabil Djedouani viendra en dialogue avec Catherine Ruel mettre en perspective Histoire d'une rencontre, le film de Brahim Tsaki. Dora Bouchoucha, grande productrice tunisienne, donnera une masterclass.
Et c'est donc l'occasion de découvrir ou redécouvrir des films qu'on n'a pas pu voir souvent à Paris. Vous allez par exemple projeter l'unique film de l'Algérien Farouk Belloufa, Nahla, réalisé en 1979 en pleine guerre du Liban. Un cinéaste qui est mort en 2018 sans véritablement obtenir la reconnaissance qu'il méritait de son vivant.
Tout à fait. Nahla, pour nous, c'est vraiment un des diamants de cette programmation. C'est un film magnifique qui a été très très peu vu à Paris. Et encore à Paris, nous avons de la chance, parce qu'il y a pas mal de cinémas d'art et d'essai, mais nous avons aussi des films qui sont totalement inédits. Des films de Zambie, d'Éthiopie, de pays qu'on connaît finalement mal en France. En France, les gens qui sont cinéphiles et qui s'intéressent au continent connaissent le cinéma algérien, marocain, tunisien, sénégalais, burkinabé et malien. Mais ça s'arrête là, alors que dans d'autres pays, d'autres cinéastes ont aussi commis des œuvres magnifiques.
Alors vous avez donc prévu des masterclass, des leçons de cinéma, des rencontres transversales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Tout à fait. Alors en fait, pour sortir du format habituel où on invite le ou la cinéaste à parler de son film avec des anecdotes de tournage, comme Tigritude est une fresque chronologique, la spécificité de cette programmation, c'est de commencer en 56 à l'indépendance du Soudan et de suivre les vagues des indépendances, des luttes de libération, des luttes pour les droits civiques, jusqu'en 2021. Et donc nous avons invité des intervenantes et des intervenants pour vraiment mettre en perspective et révéler la circulation des formes et des idées à travers le continent. Un continent ouvert sur l'extérieur, un continent par exemple où se trouve le cinéaste congolais Joseph Kumbela, qui a tourné un film en Chine que nous allons présenter, L'étranger venu d'Afrique. Un continent qui a accueilli également des cinéastes d'ailleurs, par exemple Ossie Davis, qui a tourné Kongi's Harvest au Nigeria. Ça, c'était très important pour nous de sortir d'une espèce de stéréotype d'une Afrique qui serait un peu isolée du reste du monde. Et donc, il y a deux masterclass, une avec Billy Woodbury, qui est un grand cinéaste africain-américain, qui a fondé un mouvement qui s'appelait la LA Rebellion, qui était un mouvement qui soutenait aussi le mouvement des droits civiques aux États-Unis, qui a été fondé à Los Angeles au début des années 70, qui donnera une masterclass. Dora Bouchoucha, dont je vous parlais tout à l'heure, la productrice tunisienne, qui donnera une masterclass, qui permettra aussi de mesurer comment on crée un film de manière indépendante quand l'argent qui finance votre œuvre ne vient pas de votre pays, mais vient d'un pays du Nord qui pouvait être l'ancien pays colonisateur. Six leçons de cinéma avec des focus sur les films de libération lusophone, le cinéma algérien, Djibril Diop Mambéty, grand cinéaste sénégalais, le documentaire avec Diran El-Tari, la cinéaste égyptienne, un focus sur Nollywood et le cinéma nigérian avec Newton Adouaka, et également ce qu'on a appelé des rencontres transversales. Il y en a 12, dans lesquels on invite un ou une artiste d'un autre champ disciplinaire, par exemple Abdel Malik, qui est également rappeur et écrivain, en plus d'être cinéaste, par exemple Eyal Sivan, qui lui est documentariste, mais viendra discuter d'un documentaire zimbabwéen, alors que lui est un cinéaste israélien antisioniste, avec des intellectuels, sociologues, politologues, historiens, je pense à Pape Ndiaye, à Françoise Vergès. Et donc à chaque fois, c'est un ou une artiste avec un intellectuel ou une intellectuelle qui met en perspective l'œuvre que nous venons de partager avec le public. En tout cas, Tigritude ouvre le mercredi 12 à 20h, mercredi prochain au Forum des Images, avec un film magnifique qui s'appelle Munamoto, restauré par la Fondation Scorsese à New York, et se termine le 27 février. Donc c'est ainsi qu'il courra sur 7 semaines.
Valérie Ozouf, programmatrice du cycle Tigritude, qui se tient à partir du 12 janvier au Forum des Images à Paris. Cette édition est terminée, l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Hubert-Julien Laferrière, député du Rhône, porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. Merci d'être fidèle à Radio Orient.